est fidèle et il est toujours là dans sa grâce et le pardon est toujours possible. Vous savez, y a des gens peut-être qui ont la foi depuis de nombreuses années ici. Qu'est-ce qu'on peut en traverser? Des choses avec des moments de difficulté, de doute également. Mais Dieu est fidèle. Vraiment, cet attribut que Dieu a envers nous, je trouve que c'est extraordinaire. Je suis bien content d'être dans le camp des chrétiens. Des fois, je vois ce qui se dit dans d'autres religions. Je pense qu'on a choisi la bonne part. Ça va traiter un peu de ça ce matin, si vous voulez. Et j'aimerais vous dire que on va souvent dans l'assemblée et puis on se dit les uns aux autres bonjour, ça va. Peut-être que vous êtes dit ça ce matin en arrivant. Et puis en vérité, ça va pas toujours. Alors il y a un passage dans les Proverbes qui dit ceci: au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Vous êtes de la même nature que moi, c'est des choses qui vous parlent. Et je crois que des fois, on a perdu notre paix. On porte un masque, parce que dans la société occidentale, c'est de bon ton de dire ça va, même quand ça va pas. Et peut-être qu'on peut traiter un petit peu de ça ce matin, parce que il arrive des temps où la joie qu'on a connue, la joie du salut, le bonheur de la nouvelle naissance, etc., avec les épreuves de la vie, on a des fois, eh bien, des difficultés à aller mieux, et puis la joie commence à s'effilocher, et puis, où est le temps de la joie? Et le titre de mon message, c'est l'épuisement spirituel, et voir également comment on peut en sortir. Dans la lettre de Galates, il nous est dit ceci, donc c'est pas d'aujourd'hui ce que je vous raconte là, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et l'apôtre veut souligner ici que des gens ont commencé avec le Seigneur et ils avaient une force, une énergie, on les voyait partout, chaque fois qu'il y avait des conventions, ils étaient devant, alléluia. Et puis, avec le temps, on les a moins vus, et puis on a commencé à courir de moins en moins vite. Et l'apôtre Paul va même jusqu'à dire, eh bien, qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? T'allais bien, il y avait le sourire dans ta vie. Chaque fois que je te rencontrais, tu me parlais des merveilles du Seigneur, des résultats dans la prière. Ah, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et puis maintenant, c'est plutôt, ben, avec le temps, des difficultés, et puis un peu, un temps maussade qui est venu sur nous. Alors comme je vous ai dit, la vie elle cogne, hein. Elle cogne. Certains sont touchés par l'épreuve, d'autres sont touchés par la maladie. Beaucoup d'entre nous sont las et fatigués. Bon, ces choses. On peut pas empêcher qu'elles arrivent, si vous voulez, mais il peut y avoir un enthousiasme nouveau qui peut être là. Alors des fois, on est comme vous savez, la foule au pied de Jésus. À un moment donné, il est dit que la foule était lasse et abattue. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais j'aimerais vous communiquer avant tout une bonne nouvelle ce matin. Dans la lettre aux Philippiens, 1:6, il va peut-être mettre le verset. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ça, c'est une belle promesse. Il y a Dieu, il a commencé à semer une graine en nous. Hein? Vous avez déjà vu des arbres? Des fois, c'est une petite graine. Puis un jour, c'est un bel arbre. Alors cet arbre, eh ben, il lui arrive des choses. Hein? Il y a des vents contraires qui vont contre lui, de la pluie, de la grêle. Mais Dieu dit que voilà, la semence qu'il a mis en nous, elle va produire du fruit et il va achever l'œuvre qu'il a commencé en nous. Et là, normalement, tout le monde dit « Amen ». Alors, pour certains d'entre nous, nous sommes à l'arrêt. Avant, je courais, mais comme il est dit dans le psaume premier, eh bien, c'est un des premiers cas d'épuisement spirituel que j'aimerais vous partager ce matin. Nous avons couru, et puis nous nous sommes arrêtés, et puis pas seulement arrêtés, nous nous sommes assis. Hein? Vous savez, ce texte, tout le monde le connaît, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc en compagnie des moqueurs, selon les versions. Ah, c'est bien d'avoir un texte là-bas, hein, ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Si vous faites attention, on ne fait pas toujours attention, c'est on lit vite la parole, hein. Mais des fois, il faut prendre le temps. Et là, regardez bien, il marche, il s'arrête et il s'assied. Il y a trois positions qui peuvent aussi être des positions spirituelles. On avançait avec le Seigneur, on avançait avec le Saint-Esprit, on s'arrête d'avancer, on s'assied et puis des fois on reste bloqué des années en étant assis, on a perdu cet enthousiasme et cette joie spirituelle. Ben non, faut qu'on se relève et puis qu'on avance. Alors, le conseil des méchants, vous savez ce que c'est, hein, mais je vous en dis quelques mots, on a tous péché, nous le savons, et puis notre relation avec Dieu se coupe. Mais dans sa grâce, et c'est pour ça que j'aime cette fidélité de Dieu, on a dit pendant la Sainte Cène, je ne veux pas m'étendre dessus, mais le pardon est toujours possible. La grâce se rétablit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute injustice. Amen. Et puis, on peut aussi se laisser aller, moi le premier, peut-être ici ça n'arrive pas, à des attitudes qui ne plaisent pas au Seigneur et qui finissent par grignoter notre cœur. Alors, je suis pas ici pour accuser ce matin. Vous avez compris que le but, c'est de sortir justement des ornières pour retrouver une pleine vie avec le Seigneur. Mais, eh bien, à un moment donné, Dieu nous donne dans le livre des Proverbes un catalogue. Vous connaissez le catalogue de la redoute? Oui. Alors ça, c'est le catalogue que je redoute. C'est pas tout à fait le même. Alors, les yeux hautains. La langue trompeuse. Les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui courent au mal, le faux témoin et celui qui déchaîne les querelles entre les frères. Alors ici, ça n'existe pas, hein? Mais, voilà. Je me faisais la réflexion, mais c'est des petites choses, mais faisons attention, des gens, ils vont à l'église avec des enfants, et puis, ils sortent là, ils prennent l'auto, puis ils commencent à parler. T'as vu, celui-là, il a dit, puis le prédicateur, puis le pasteur, puis machin. Les enfants, ils écoutent, hein, derrière. Voilà, je dis juste ça parce que c'est des choses aussi qui doivent nous interpeller. Mais en tout cas, le catalogue que je redoute, mettons-le à la poubelle et ne le pratiquons pas parce qu'effectivement, eh bien, c'est pareil, celui qui déchaîne les querelles entre les frères, c'est pas ce que Dieu veut et Dieu dit qu'il haït ces choses. Hein. Voilà un premier cas d'épuisement spirituel et pour ça nous avons le pardon qui nous est offert. Un deuxième cas, si vous permettez encore ce matin, eh bien, c'est de s'épuiser en s'appuyant sur notre force à nous. Au lieu de s'appuyer sur la force du Seigneur, on s'appuie sur notre force. Et on va avec ce qu'on appelle le zèle de la chair. Vous savez qu'à Montbéliard, on a une devise. En Dieu, mon appui. Amen. Et mais si c'est en moi, mon appui, ça marche pas. Je sais pas si vous avez essayé, moi j'ai déjà essayé. Ça marche pas du tout. Si tu prends la chair comme appui, et si tu pars dans le service du Seigneur avec ce zèle, bonjour les dégâts, bonjour les difficultés. Alors, je vous invite vraiment à vraiment éviter cette désillusion et de compter sur le Seigneur pour avancer. D'ailleurs, si on est toujours là pour certains, moi j'ai fait un pas avec le Seigneur en 1990, vous ferez le compte, je peux vraiment dire que c'est par la grâce du Seigneur que je suis toujours ici ce matin. Il y a eu bien des cas où la foi a peut-être vacillé, où les épreuves ou des difficultés ont été là. Mais en tout cas, par la force du Seigneur, les choses sont complètement différentes que par notre force. Le verset nous dit ceci dans Éphésiens, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » C'est tellement important de se le rappeler, puis d'incrémenter en nous ces choses. C'est la force du Seigneur qui nous renouvelle et qui nous donne cette énergie d'avancer. Si tu t'appuies tôt ou tard sur ta propre force, tu vas craquer. Et c'est valable dans beaucoup de domaines. Il y a un homme qui était converti depuis quelque temps qui s'appelait Henri, d'après ma mémoire. Et cet homme était un ancien drogué. Et même qu'il ait fait un pas avec le Seigneur, il avait des envies d'y revenir. Avec les drogués, ils ont toujours ce qu'on appelle une espèce de remontée d'huile, comme ils appellent ça. Et cette envie, elle revient les chercher. Bref, il connaissait un endroit où dans la ville, les drogués, les dealers vendaient. Et chaque fois qu'il passait là, il était de plus en plus attiré. Et il y avait une lutte contre lui et la drogue. Et il ne savait pas comment s'en sortir. Et il essayait par toutes ses forces de s'en tirer. Et puis, on peut dire que cet homme Henri avait créé un 11e commandement qui s'appelle « Tu ne te drogueras point ». Et par toute sa force, il essayait d'y arriver jusqu'au moment où, arrivé près des dealers, voulant acheter sa marchandise, il s'est mis à crier à Dieu toutes ses forces en disant « Seigneur Jésus, je suis faible. Aide-moi, prends le contrôle de la situation. Que ta victoire s'accomplisse à travers moi. » Et Dieu a fait ce jour-là un miracle et il ne s'est plus drogué. Mais tant que c'était par sa force, tant qu'il comptait sur son énergie, sur son âme, ça marchait pas. Ça a pu marcher quand Dieu a pu prendre le relais. Vous voyez ce que je veux dire, hein? En Dieu, mon appui, et on agit par sa force. Amen. Un autre cas d'épuisement spirituel. Regardez autour de nous avec envie. Alors ici, ça n'arrive pas, hein. Mais chez nous, des fois, ça arrive. Avec tout ce que je fais pour Dieu, je ne comprends pas que mes voisins, mes collègues de travail s'en sortent mieux que moi. C'est pas normal quand même. On vous a déjà dit ça quand vous parlez des fois que ils mentent, ils trichent, ils magouillent, ils vont en vacances 3 fois par an. Les enfants réussissent et sont en bonne santé. Et mon voisin a pu s'acheter la dernière Mercedes. Et moi, je suis toujours en Clio. C'est pas normal. C'est injuste. Dieu est injuste. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Mon renoncement, mon travail, mes sacrifices. Alors, mes amis, celui qui s'est sacrifié et qui a tout donné s'appelle Jésus-Christ. Amen. Nous sommes redevables envers lui et pas l'inverse. Il y a des fois une inversion des valeurs qui est faite. Nous sommes atteints d'un syndrome. Et il y a un homme dans la Bible qui a eu ce syndrome, il s'appelait Asaph. Asaph, vous le retrouvez dans le psaume 73. Il est au premier rang de la louange, près du roi David. On le voit dans le texte quand l'arche est ramenée et que David danse. Le gars est bien placé, hein. Il est peut-être président du CNEF ou en tout cas... Il a une bonne position. Pourtant, ce gars-là, il est pas bien dans sa tête et il regarde autour de lui, puis il regarde avec ses yeux humains, puis il commence à psychoter, quoi. Alors, il nous a dit ça dans le psaume 73, le verset 2 à 5. Tu l'as, oui. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Vous voyez, c'est ce qu'il se dit, hein. Et puis un peu plus loin aussi encore, le verset 12 à 13, tu l'as? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Il se plaint, hein, le gars, il gêne. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. En tout cas, ce monsieur Asaph, il a eu une période où vraiment, il allait pas bien. Pourtant, bonne position, bien placé, hein, connu en Israël. Il y a des psaumes d'Asaph, qui sont dans la Bible. Hein. Et puis, à un moment donné, il s'est dit, ça va pas, hein, moi. j'en fais, je suis là, je suis au service, et puis les autres à côté, qui sont des pires païens, ils ont droit à tout. Parce que c'est vrai que Dieu, dans sa grâce, donne à tous. Alors, c'est une vision à court terme, les amis, une vision à court terme des choses de Dieu. La paix que Jésus-Christ nous donne vaut tous les trésors du monde. Je l'ai souligné, ça. Vous connaissez ce chant ? Oh, la paix que Jésus donne, je ne sais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Amen. Quand on a connu la paix, quand on parle avec les gens du dehors ou tout ça, la paix, il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent. Hein. Des belles déclarations, moi j'en entends, mais la paix réelle. Hein. Quand tu es dans ton lit, quand tu es tout seul le soir sur ton divan. Pas pareil ça. Hein. Et puis la vie pour nous continue dans l'éternité. On ne doit pas avoir à court terme, les amis, qu'avec une vie sur la terre, la vie, elle continue. Après, on passe directement. J'ai lu un livre là-dessus, il n'y a pas longtemps. Sur les gens qui vont à l'éternité et tout ça. Mais c'est un vieux livre américain que j'ai trouvé qui date d'il y a très longtemps. C'est une servante qui a été enlevée. Elle dit que les gens sont étonnés parce qu'en partant, ils arrivent tout de suite dans leur nouvel état. Et dit, les gens sont, la première chose qui se passe, c'est qu'ils voient les gens, leur âme est étonnée, parce qu'ils disent, ils croyaient que, pour certains, qu'il y a un tunnel, une lumière, un machin, un truc. Alors, je sais pas, mais elle disait que tout de suite, quand on meurt, on arrive dans l'état d'éternité dans lequel le Seigneur nous place. En tout cas, on continue une vie dans le paradis pour nous chrétiens, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et Asaph finit en disant, qui donc ai-je au ciel en dehors de toi? Je n'aurai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Et là, on dit Amen. Hein? Et ça, c'est vrai. C'est vrai. J'ai des amis qui ont de l'argent, moi. Ça va, c'est arrivé. Hein, oui. Et qui sont pas forcément chrétiens. Mais c'est vrai que je veux pas faire l'apologie de la pauvreté parce que Dieu veut qu'on soit aussi avec qu'il nous manque de rien. Et Dieu merci, mais c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est vrai, parce que moi je l'ai constaté auprès de gens proches qui ont des biens, qui ont de l'argent, qui ont des voitures, des maisons, des, vous voyez, et ils n'ont pas... Alors oui, ça contribue quand même d'être bien, d'être un peu à l'aise, je ne dis pas autrement, et la Bible d'ailleurs non plus, mais le fait de la richesse elle-même seule ne contribue pas à ce que la personne soit heureuse. Ça, c'est faux, parce que moi, je l'ai expérimenté dans ma vie avec des gens proches. Voilà, alors, je traite maintenant un autre cas. Hein, vous me supportez encore un peu, oui. Oui, oui. Alors, croire quelque chose que Dieu n'a pas dit ou que Dieu n'a pas promis. J'ai un auteur chrétien que j'aime beaucoup qui s'appelle John Bevere. Bon, si certains connaissent ici ses livres. Il a fait un livre que je vous recommande, vous pouvez commander peut-être sur Internet ou dans une librairie, qui s'appelle « Ainsi parle l'Éternel ». Alors, mettons-nous d'accord, moi qui suis là au micro, je ne vais pas dire que les prophéties n'existent pas, mais que Dieu dit, il faut regarder et les examiner, tout simplement. Heureusement qu'il y a des prophéties, et heureusement qu'elles arrivent, et merci mon Dieu. Mais on ne peut pas acheter tout ce qu'on nous vend. Je ne sais pas, si je te dis, tiens, Albert... le Seigneur t'appelle à été vivre chez les Inuits avec ta femme, mais pour bien montrer que tu aimes les gens, tu vivras dans un igloo. Voilà, ainsi parle l'Éternel. Et tu devras aussi vivre en maillot de bain. Ainsi parle le Seigneur. Voilà. On est quand même en droit de se poser la question. Ah ben oui, mais on a besoin de toi là-bas, frère. Voilà, donc on est en droit quand même de se poser la question, c'est pas mal ça, c'est pas interdit. On nous a donné un cerveau, une intelligence. Mais les amis, il y en a qui se sont fait avoir, entre guillemets, et qui ont payé un prix fort avec ça. Dans ce livre, en fait, il parle d'un homme qui avait peur de l'avion, puis il reçoit une prophétie comme quoi il doit être pilote d'avion pour amener des missionnaires, des bibles et des livres chrétiens dans toute l'Afrique, dans l'Inde et tout ça. Et le gars est terrorisé. Alors, pour obéir à Dieu, il va faire des études, il réussit à avoir son diplôme. Puis chaque fois qu'il monte dans un avion, c'est jusqu'au moment où, par grâce, Dieu lui parle en disant « Je t'ai jamais demandé ça, en fait. Il a perdu quelques années de ça. Et ça arrive, ces choses-là. On a un autre ami aussi qui est dans la région à qui on a dit « Tu auras une entreprise, tu vas porter, ton nom sera sur des camionnettes, et patati et patata. » Puis ça a été une catastrophe parce que, enfin, c'était pas ça, quoi. Ouais, c'est pas ça. Alors, plusieurs fois, on a entendu des choses comme ça aussi. Encore une fois, hein, je suis pas l'homme qui est contre les prophéties, c'est pas ça. Je dis simplement qu'il nous faut discerner. Des fois, j'entends « Dieu ne permettra pas ceci, Dieu va faire ceci, ensuite il va faire cela. » Moi, j'ai appris une chose, c'est que tu ne peux pas prendre le bras de Dieu pour lui dire ce qu'il doit faire. Hein, ça m'a au moins servi quelque chose, ces années de christianisme. Hein. Même avec la meilleure volonté, prier et s'attendre à lui, dans la foi, oui, mais lui dire et lui tordre le bras, même avec les meilleures intentions du monde, hein, avec la meilleure volonté du monde, puis des bonnes intentions, eh bien, non. On ne peut pas tordre le bras de Dieu. Il est possible qu'on ait mal compris des fois l'Évangile et que nous soyons ébranlés par des enseignements erronés, comme sur Internet, parce que maintenant, tout le monde est prophète, pasteur, évangéliste, docteur sur Internet. Bon, c'est comme ça. L'apôtre nous dit dans Galates 1, 26, « Je m'étonne que vous détourniez si vite, si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Déjà, le souci de Paul est, en ce moment, je lis les Corinthiens, ça revient beaucoup, des gens qui veulent pervertir l'évangile. Et le souci de l'apôtre, c'est comment il va trouver les églises qui visitent alors que d'autres passent en même temps et font des reproches et critiquent Paul. Et Paul a ce souci en disant, si un ange du ciel vous annonce un autre évangile, non, l'écoutez pas. C'est depuis toujours. C'est pas de problème qui nous est proposé, mais de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Peut-être que moi j'ai manqué de ça au début de ma vie chrétienne, qu'on m'explique qu'il y a aussi des temps difficiles, qu'il y a aussi des temps compliqué. C'est pas Jésus va payer mes impôts. Hein. En fait, on est déçu et déstabilisé par ce qui nous arrive en croyant que. Je me souviens que moi j'avais une vision fausse de Dieu. Par exemple, je pensais que puisque j'étais enfant de Dieu, j'avais des faveurs particulières dans le sens. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais par exemple, si jamais je voulais devenir avocat ou docteur, ben, Dieu allait me donner directement le diplôme, vous voyez. J'aurais toute la connaissance par miracle. Je croyais comme ça, vous voyez. Donc j'aimais Dieu, mais je croyais faux. Elle était fausse, ma foi, elle n'était pas basée sur quelque chose de juste. Par exemple, même à un moment donné, je me suis dit, tiens, si je traverse au milieu de la route, puis qu'il y a un camion qui arrive, je vais passer à travers le camion. Heureusement que j'ai arrêté de croire comme ça rapidement. Hein. Mais, vous voyez, on peut croire et mal croire. Ça arrive, ça. De même, des fois, on veut s'appliquer des règles religieuses. On perd la vie de l'esprit et on veut la remplacer par des règles strictes qui nous font un code strict d'obéissance. Mais ce n'est pas la vie divine, hein, ça. Ça ne marche pas non plus. Et nous buvons le bouillon mortel du légalisme. Vous connaissez ça, le légalisme? Ben, ça, c'est une attaque contre l'Église et contre les croyants qui est constante depuis la vie de l'Église. Constamment, le monde veut rentrer dans l'Église ou dans les croyants et constamment, la religiosité veut rentrer chez les croyants et dans l'Église. C'est principalement... Quand vous lisez c'est Alfred Kuhn qui a fait un livre sur les églises, les vies de l'Église. C'est souvent, hein, les églises, elles ont toujours un peu été attaquées de cette manière-là. Soit on épouse le mode de vie contemporain, la religiosité, elle s'incruste dans l'Église. Après, Dieu doit faire des choses pour éclater. Alors, on ne va pas prendre le bouillon mortel du légalisme et se couper de la vie divine. Alors, pour savoir ce que Dieu dit et promet, il reste la parole de Dieu. Et j'ai bien aimé, il y a un verset qui a été donné tout à l'heure, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Hein, c'est pas la même version. Ouais. Abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous. Voilà. Ça sert aussi à ça, une église, hein, l'exhortation, l'instruction. Donc tout ça, c'est pour expliquer qu'effectivement, on peut avoir des chemins différents. J'aimerais dire quelques mots sur l'utilité de la prière également. J'en avais parlé une fois, la prière, à quoi ça sert? Vous n'avez jamais posé, vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui vous a dit, mais à quoi ça sert la prière? À quoi ça sert? Et je me souviens d'avoir visité un couple et la dame disait ça, elle disait, moi, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert la prière. Hein, ça ne sert à pas, je ne comprends pas. Puis une autre fois, quelqu'un me disait, et je trouve que c'est assez pertinent, il dit, mais écoute bien, il me dit, Dieu, il sait tout. Ouais. Alors il me dit, si par exemple tu es malade, Dieu, il le sait. Si tu es au chômage, Dieu, il le sait aussi. Si tu traverses des difficultés, il est au courant. Alors pourquoi prier pour quelque chose dont Dieu est déjà parfaitement au courant? Hein? C'est une réflexion qu'on pourrait se faire, ça. Si Dieu, il sait, pourquoi je dois lui dire en plus? C'est important. Et j'ai essayé de vous dire pourquoi. Je me suis posé cette question et j'ai essayé d'y répondre. J'ai été interpellé par un texte dans la parole de Dieu, dans Colossiens 4, versets 2, 3 et 4. C'est persévérer dans la prière. Veillez-y. C'est l'apôtre Paul qui parle, hein. Veillez-y avec des actions de grâce. Et maintenant, écoutez bien. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, de sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Puis là, ça m'a fait un peu utile, mais je me suis dit, mais Paul, il a été appelé directement par Dieu. Hein, vous vous souvenez, hein, le chemin de Damas, pourquoi persécutes-tu les chrétiens, et il a été mis à part pour annoncer l'évangile aux païens, une grande mission, Jésus lui a confié. Il nous a même dit dans un des textes qu'il a été enlevé au troisième ciel, qu'il a vu des choses ineffables. Enfin, c'est pas le premier baptisé de l'année, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Eh bien, c'est bizarre que je me dis, alors qu'il a un appel clair, certain de Dieu, qu'il demande la prière. C'est bizarre parce que je me dis, Dieu devrait, entre guillemets, on a des fois une compréhension qui est celle-ci, si Dieu sait tout, il accompagne Paul et il ouvre les portes qu'il faut pour qu'il puisse prêcher. Pourtant, Paul dit, priez afin que des portes s'ouvrent, que je puisse annoncer le mystère de l'Évangile. Donc ça m'a un peu interpellé. J'aimerais vous dire ceci. La réponse se trouve peut-être là. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et effectivement, le diable agit chez nous sur la terre avec un pouvoir et il est dit que c'est le prince de ce monde. Hein? Et il a une puissance et il agit. D'ailleurs, vous pouvez regarder la télévision à 13 heures, vous allez voir que ces œuvres, on les contemple. Et donc, j'ai pensé à ceci, c'est un peu hein, avec ma pensée à moi, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des films de science-fiction. Et dans les films de science-fiction, il y a toujours un gros vaisseau qui arrive. Alors ça, c'est les méchants. Le vaisseau, il est tout noir. Et puis, voilà. Et puis, il y a les gentils qui sont là, puis qui voudraient aller sous le vaisseau. Mais le vaisseau méchant, lui, il a un bouclier. Vous savez, un bouclier, ça fait bouh. Puis tous ceux qui essayent d'aller sous le vaisseau, les avions, les missiles, tout ça, ben, ça s'explose sur le bouclier. Ils n'arrivent pas à rentrer. Et sous ce bouclier, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tous nos bien-aimés qui sont emprisonnés dans leur âme. Je fais peut-être un peu de science-fiction, je me laisse un peu aller, mais après tout, on peut avoir une ou deux fulgurances, hein, vous le permettrez. Et sous ce bouclier, je dirais, de méchants, il y a nos bien-aimés qui sont prisonniers dans leur âme, sous la puissance du malin. nos contemporains qui sont aveuglés par le prince de ce monde, qui vont se vouer à toutes sortes de gourous, de religions, de tout, ben, ils n'y peuvent rien, on cherche. Toutes sortes de choses malfaisantes, maladies, deuil, souffrance, injustice, corruption, guerre. Et la bonne nouvelle de tout ça, je dirais, eh bien, c'est que Dieu est le roi de toute la terre et qu'il a une autorité. Mais le diable aussi, il a une autorité. Mais en fait, je prie Dieu qu'il permette que dans ce monde de ténèbres, j'ai des portes qui s'ouvrent pour aller parler de lui, pour amener des âmes. Je prie pour que la puissance de guérison m'accompagne. Je vais aller prier pour des personnes pour qu'ils soient guéris. Je prie pour recevoir des paroles qui vont libérer des gens. Amen. Hein? Dieu, mais la prière, elle sert à ça, à nous donner une puissance supplémentaire, à ouvrir des portes. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, bien conscient de ces choses, dit priez, priez, priez parce que je vais arriver dans des endroits, c'est les ténèbres, il y a des murailles, il y a des boucliers, il y a tout ce que vous voulez. Priez pour que Dieu, il ouvre une porte, parce qu'il a cette puissance, pour que moi, je puisse aller. C'est comme ça. On m'a raconté, c'est marrant, en parlant, il y a des choses qui viennent, que dans un pays d'Amérique du Sud, il y avait une rue qui traversait la ville, et la moitié de la rue côté gauche, c'était un pays, et l'autre moitié, c'était un autre pays. Je vous dirai pas où c'est, je sais pas, mais c'est dans un livre que j'ai lu ça. Et bizarrement, les missionnaires qui donnaient des traités, quand ils donnaient du côté gauche de la route, les gens les acceptaient et étaient plutôt favorables. Et du côté droit, c'était complètement bloqué et rejeté. Oui, deux pays différents. Et deux actions, il y a des puissances qui sont là, ténèbres. Incroyable. Amen. Dieu est le roi de toute la terre. La prière est utile et efficace, elle change les situations, elle est entendue par le Seigneur. Le prophète Daniel nous le rappelle. L'ange lui dit, ta prière a été exaucée, je suis venu vers toi en réponse aux paroles que tu as prononcées. Un cas d'épuisement spirituel peut être celui-là. On a prié, puis ben, ça vient pas. J'ai une maman qui est âgée, moi. À 84, 85, elle est un peu malade. Mais quand elle m'appelle, elle veut tout de suite. Elle dit, Michel, il faudrait que tu viennes pour... J'ai mis un petit truc dehors, il faudrait l'amener à la déchetterie. Oui, d'accord. Alors, tu viens quand? Laisse-moi le... Non, mais parce que, voilà, tu comprends, faut que tu... Voilà, il est dans un coin, il gêne rien, mais c'est tout de suite. Des fois, il y a une espèce d'impatience, hein, comme ça. Et je me souviens d'une dame qui m'avait raconté qu'elle était dans un organisme chrétien et elle avait vécu une injustice importante pour elle. Et elle s'en était ouverte au Seigneur, et puis le Seigneur lui avait dit, laisse-moi faire. Toi, tu ne fais rien, c'est moi qui ferai. Et puis, elle m'a dit, ben, Dieu a vraiment agi comme il me l'a dit, seulement ça a mis 3 ans. C'est dur, hein, d'attendre 3 ans quand on est victime d'une injustice, hein. Bon, voilà. C'est pas marrant, mais ça me fait marrer. Bon, pour terminer, soyons sûrs que le Seigneur est avec nous, quel que soit ce que nous traversons. Il veut nous rappeler cette parole ce matin, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Alors, quelque part, je voudrais juste qu'on ait un temps ensemble, peut-être de prière, mais peut-être un moment où on peut faire le point, chacun à votre place, et puis je terminerai par la prière. Si vous êtes dans la citadelle de l'amour refroidi, parce qu'il y a un manque de pardon, par exemple, si vous êtes là, c'est abattu, si vous avez... bu le bouillon mortel du légalisme en vous mettant des règles, des lois, des règles, des lois. Si vous êtes accroché à des fausses promesses qui sont pas justes, qui sont à remettre en cause, que Dieu n'a pas dit, si on vous a enchaîné avec des paroles de prophétie qui n'étaient pas justes et que vous êtes lié à cause de ça, si le péché s'est installé dans votre vie d'une manière ou une autre, hein, c'est le péché, on pourrait en parler longtemps, hein, et faire toute une prédication, hein, c'est pas seulement faire des grosses choses, mais c'est vrai que, par exemple, passer son temps à faire que des critiques, au bout d'un moment, la vie de Dieu, elle s'étiole, vous savez. si vous avez arrêté la prière aussi, c'est peut-être l'occasion de recommencer à votre rythme. Voilà. Que Dieu nous donne renouvellement, sagesse et rafraîchissement. On peut prendre un temps de simplement pour se remettre devant le Seigneur et peut-être faire le point pour qu'on reparte. Vous savez, c'est comme les tramways, là. Hein. Les tramways, des fois, il y a au-dessus les fils avec le courant. Des fois, on a pris un embranchement, puis le courant passe plus, quoi. Donc, ben, dans sa grâce, Dieu nous remet sur les bons rails. Mais peut-être qu'on a quelque chose à lui dire ou à faire, quoi. Seigneur, où est-ce que j'en suis ce matin? Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi ce matin? Où est-ce que j'en suis de ma vie? Est-ce que tu as plus pour moi? Où est-ce que tu veux me conduire, Seigneur? Est-ce que je me suis mis dans un sentier, dans un bourbier, Seigneur, dont je voudrais vraiment sortir pour avancer avec toi, Seigneur? Je te prie de me pardonner mes fautes, mes péchés, Seigneur. Tu vois, j'ai pris des fois des mauvais chemins où j'ai cru d'une manière qui n'est pas forcément la tienne. Je te prie d'éclairer mon sentier, que ta parole, elle éclaire mon sentier, que tu ouvres ma compréhension, mon entendement aux choses qui viennent de ton esprit, Seigneur. Je retrouve la joie d'être en communion avec toi, Seigneur. Ouais. Seigneur, je prie pour tous ces bien-aimés afin que nous puissions vraiment avancer dans ce chemin de la vie qui vient de ton esprit, la vie divine, celle que tu donnes à tes enfants, parce que nous appartenons à Jésus-Christ et nous avons un accès auprès du Père bien-aimé. C'est pourquoi, Père, je te prie ce matin d'étendre ta bienveillance sur chacun de nous. Je sais que tu nous aimes et que tu nous fais grâce. Seigneur, le pardon et la grâce sont toujours possibles et tes mains sont tendues, Seigneur. Seigneur, on est des fois bien perturbés dans le monde dans lequel nous sommes et on a vraiment besoin que tu nous éclaires. C'est pourquoi nous te demandons ton aide. Amen. Amen.